la question du politique dans l'imaginaire. Voilà. Et puis Norman Swinrad, qu'on ne présente plus comme écrivain engagé depuis un certain temps, je ne veux pas vous vieillir trop, et qui aborde de très nombreux sujets depuis longtemps et qui remettent en question systématiquement un certain nombre de problèmes sociétaux et qui abordent la politique frontalement dans ses ouvrages de science-fiction. Voilà, alors, est-ce que chacun, vous pourriez déjà nous dire un petit peu si vous avez dans ce thème-là, l'écrivain politique, est-ce que vous sentez écrivain politique, Norman?
C'est nécessaire, on prend cette part en français, la différence entre la politique et la politique politicien. Comme écrivain de fiction spéculative, de science-fiction, si vous voulez, l'idée, la base est la création dans une culture imaginaire. Mais à mon avis, c'est pas possible de créer une vraie culture littéraire sans un niveau politique. Politique culturelle, et quelques livres comme Jack Baron et Paul dans le police de point de vue, avec un politicien beaucoup plus spécifique. Et c'est dangereux de faire ça parce que comme les choses sont éditées, vous créez un futur, mais après aux États-Unis, moi ici, mais après un an, deux ans, c'est pas la même chose comme le printemps, par exemple. À l'autre côté, je crois que un écrivain, un artiste, un comédien, blablabla, vous êtes aussi un citoyen de le monde, ou même de votre culture, au votre pays. Alors, comme un niveau citoyen, j'ai une politique spécifique et c'est une tension, à mon avis, dans le niveau artistique romanesque. L'histoire personnelle de personnage et tout ça est la chose centrale, dramatique, et en un certain sens plus important. Mais aussi, si c'est possible, en quelques romans, de faire une connexion dans la conscience de la à un niveau littéraire avec la situation politique dans la culture de le roman, de l'histoire. À mon avis, ce n'est pas possible en faire un roman complet sans avec l'indifférence de le niveau politique. C'est pas possible pour faire un roman vraiment complet sans un niveau politique. Et comme tout le citoyen, un écrivain, il y a une vision politique spécifique, mais c'est pas en bonne chose artistique, artistique, de faire un roman avec une mission politique.
Karim, donc le club des punks contre l'apocalypse zombie, c'est pas votre premier roman. Avant, il y avait Feywild et Guillotine, et puis un recueil de nouvelles avec des choses très variées à l'intérieur. Dans le club des punks, est-ce que il y a cette volonté de faire un texte engagé ou tout simplement, comme disait Norman, d'aborder le politique comme de toute façon un élément essentiel quand on parle de la société actuelle, alors actuelle.
Alors c'est pas de la science-fiction spéculative. Il y a cette volonté à part quand on met à part l'idée des zombies qui envahissent Paris, qui détruisent Paris, le côté humoristique, c'est une bande de punk dont un des membres est animé par des envies de reconstruire une société libertaire. Qui a comme sûrement Kropotkin, qui est un ancien anarchiste. Donc, ça fait partie constituante du livre. Il y a toute cette envie de créer enfin cette société parfaite dont les anarchistes ont rêvé depuis le début du siècle dernier, avec effectivement une situation où il n'y a plus rien. Donc, c'est quand même plus facile, on n'a pas tout le monde extérieur. Donc, oui, il y a ce côté politique dans ce livre-là. Ce n'est pas de la spéculation, c'est juste une envie de concrétiser. Des vieilles idéologies. Et par contre, les autres livres que j'écris, non, il n'y a pas ça. Pour la science-fiction, c'est vrai que je suis d'accord avec M. Spinrad quand on essaie de faire de la spéculation, quand on va aller imaginer la société de demain ou de dans très longtemps, c'est vrai que si on ne prend pas en compte le côté politique, on va tourner en rond, il va manquer quelque chose. Par contre, la science-fiction en général, elle est tellement multiple qu'il est très possible d'écrire, ne serait-ce que, je sais pas, un post-apo où le côté politique est complètement altéré. C'est généralement ce qui se passe quand tu as un père et un fils qui sont sur une route et qui vont vers on ne sait pas où. Il n'y a pas de réflexion politique, il n'y a plus de structure étatique, il n'y a plus de structure sociale. Donc, tout ça, ça disparaît. Maintenant, c'est pas forcément moi la science-fiction qui me plaît le plus. J'aime bien effectivement qu'il y ait une réflexion sur le futur, qui est une réflexion qui se base aussi sur le quotidien, qui est une extension du quotidien. C'est-à-dire que imaginer vraiment ce que va être le futur, c'est impossible. Mais faire une extrapolation de ce qu'on a aujourd'hui et de le pousser à bout dans généralement ce qu'il y a de mauvais. C'est ce qu'on trouve assez souvent dans la SF et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous montre les futurs qu'il faudrait mieux éviter.
Natacha, depuis les utopies de Thomas More ou de Cyrano Bergerac, on a cette idée de présenter une organisation. Est-ce que la SF elle est nécessairement politique? Et est-ce que elle est nécessairement de gauche dans ce cas-là, ou est-ce qu'on a dans l'histoire des exemples de textes qui abordent peut-être ces questions sans s'engager plus que ça?
Oui. Alors, d'abord, je crois que la science-fiction, il y a un petit peu, c'est peut-être un cliché ou un stéréotype de dire ça, mais il y a finalement deux science-fiction. Il y a d'abord une science-fiction populaire, et ça, depuis, alors, on ne va pas remonter jusqu'à Cyrano de Bergerac, parce que là, sinon, je fais un exposé de 4 heures, mais au moins au 19e siècle, il y a une science-fiction très, très populaire, hein, qui va de toute façon véhiculer un certain imaginaire collectif, qui ne se prend pas forcément très au sérieux. On va retrouver ça évidemment aux États-Unis aussi à travers les punks. Et puis il y a quand même une science-fiction qui s'appelait au 19e siècle, qui a porté différents noms, anticipation, merveilleux, scientifique, qui finalement portait des idées politiques. Alors les écrivains de science-fiction, par exemple, d'anticipation, ne sont pas forcément politisés, au sens où ils sont dans un engagement politique auprès d'un parti, par exemple, mais ce sont des gens qui défendent quand même des visions politiques, finalement, de la société au travers de leur fiction. Alors, pour en citer quelques-uns, par exemple, je crois qu'en France, même quelqu'un, par exemple, comme Jules Verne, à peu près dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, on ne voit pas forcément Jules Verne souvent sous cet angle-là, mais si vous prenez par exemple les 500 millions de la Bégome ou encore l'île à hélices, on a une critique absolument virulente du capitalisme sauvage qui nous vient des États-Unis de cette époque. Donc, même si Jules Verne n'était pas foncièrement, je dirais, marqué par le socialisme, par exemple, ou par l'utopie, on a quand même cette vision-là, vous voyez, dès le début. Et puis, pour vous donner quelques exemples, si j'avance un petit peu dans le XXe siècle, par exemple, en France, on va avoir, durant l'entre-deux-guerres, on a quand même, depuis la fin du XIXe siècle, par exemple, des écrivains qui sont quand même très conservateurs et très marqués à droite. Alors souvent, on parle de la science-fiction à gauche, hein, parce que c'est vrai qu'en France, dans les années 60, 70, 80, et puis même maintenant, on a quand même une science-fiction et un milieu de la science-fiction qui est plutôt marqué à gauche. Mais il y a eu, dans l'histoire de la science-fiction et de l'anticipation, des auteurs qui sont très marqués à droite ou à l'extrême droite et qui ont eu quand même un très grand succès. Alors, pour en citer par exemple quelques-uns, on a fait l'an dernier d'ailleurs une table ronde à ce sujet sur les écrivains, on va dire, collabos. Voilà, et encore, c'est à prendre avec des pincettes parce que il faudrait vraiment avoir un regard d'historien avec des faits extrêmement précis sur le sujet. Mais vous avez par exemple Léon Daudet, fils d'Alphonse, qui a été un des fondateurs de l'Action française, donc qui est quand même très marqué à l'extrême droite, voire monarchiste. Vous allez avoir par exemple Jean de La Hire, qui a été noté comme collaborateur. Vous avez encore l'éditeur de Noël, qui est si important pour la science-fiction et qui était un collaborateur notoire et qui va finir sa vie en 1945 assassiné, on ne sait pas trop comment. Vous avez le cas Barjavel, vous avez le cas B.R. Bruce, par exemple, qui est un grand écrivain de science-fiction de l'après-guerre et qui a quand même été secrétaire d'État à la communication sous Pétain. Vous voyez, par exemple. Donc tous ces gens-là véhiculent des idées politiques qui ne sont pas forcément des idées de gauche. Et puis pour parler d'une grande figure de l'entre-deux-guerres qui, malheureusement, j'avais fait une conférence là-dessus l'an dernier ici aux Imaginales, c'est Régis Messac, qui lui était vraiment quelqu'un qui portait des idées, alors on va dire très progressistes, hein, pas forcément ni socialistes ni communistes, mais progressistes, voilà. Et puis je terminerai en disant que pour moi finalement, et je reviens évidemment à ce que disait Norman tout à l'heure, mais la science-fiction c'est vraiment, enfin la science-fiction, on pourrait parler de la fantaisie après, c'est un petit peu plus compliqué en fantaisie, mais au moins en science-fiction, je pense qu'on a des auteurs qui consciemment ou inconsciemment vont tenter peut-être de modeler quand même, enfin pas forcément de modeler la société, mais au moins d'apporter une vision, et une vision qui vient du présent. Et donc obligatoirement, il y a un engagement politique sur ou la critique du présent, ou proposer éventuellement une autre vision sociétale pour essayer de faire avancer les choses. Et ça, ça s'appelle un engagement politique quel qu'il soit. Voilà. Et puis, juste un dernier mot, en France, la science-fiction française a été très marquée politiquement dans les années 70 et 80. Ça s'est un petit peu tassé après, mais dans les années 70, on a eu une science-fiction qui était quand même très nettement à l'extrême gauche. Voilà, avec plusieurs auteurs, on pourra parler éventuellement après.
D'ailleurs, si on vient dans les années 70, sur ce que tu expliques, sur cet engagement, et pour aborder un petit peu la fantaisie, on a Rêve de fer. Qui a voilà, ce roman étonnant d'un Hitler devenu auteur qui va développer dans son roman tout ce qui nous a fait horreur dans le réel et qui là devient un objet littéraire reconnu avec une sorte de distance comme si tout ça ne pouvait pas être vrai. Et vraiment, dans ce texte-là, Norma Swinrad, est-ce que l'objectif c'était aussi de dénoncer une illusion qui serait que la fantaisie n'est pas politique, ou même peut-être de montrer que quand elle, concrètement, elle est très réactionnaire.
Rêve de faire. Un monde alternatif, dans un monde alternatif, comme un master occidental. L'idée de ça, il commence avec une conversation avec Michael Moorcock, et je demande à Michael Moorcock, qu'est-ce que c'est votre forme pour faire tout le fantasy comme ça. Et il m'a dit, c'est trop simple, vous avez un mystique, chose de histoire ou de littérature, et vous avez beaucoup d'images freudiennes dans ça. Oh, c'est comme le troisième Reich. Je pense que ça. Et c'est curieux, ou pas curieux, à l'époque en science-fiction, dans les années 30, vous avez Space Opera. Et avec M. Hitler, vous avez Wagner Opera. Et je n'ai pas convaincu avec le explication de l'économie totalement pour le troisième Reich. Et j'allais dire, c'est une puissance, un pouvoir, mais puissance psychologique qui était le successeur d'Adolf Hitler. Et je commence avec ça, après je pense, c'est beaucoup de fantasy héroïque avec la même conscience à cette époque. Et ça, c'est une chose qui commence comme ça. Et l'idée, c'est pas de créer un bon moment de fiction héroïque, c'est la merde, parce que Hitler, c'est pas un homme écrivain. Histoire. Mon ami Roland Farmer était le fils d'une famille pinoire. Et bon, toutes les choses comme le pinoire, you know, attention, grossiste. Et dans le an de jeunesse, 14 ans, il a pris un essai dans une édition de ça. Il dit l'histoire de lui-même comme un mec, fils de 14 ans. Et quand il a lu, le rêve de faire, c'est une inoculation contre cette espèce de fascisme. Et ça, c'est la chose que je voudrais faire avec ça. À un certain niveau, l'explication du Troisième Reich lui-même, l'explication de conscience, vachement phallocratique, vachement en idée freudienne. À un autre niveau, en relation avec ça et une certaine forme de space opera, de science-fiction. Et pour la plupart, ça marche. Et Roland m'a dit, dans les choses qu'il a écrit, c'est en changer son conscience de cette époque. Et je voudrais faire une chose comme ça avec cet roman. C'est un roman très politique. C'est pas possible de dire non, c'est pas politique. Le parti nazi aux États-Unis a fait une critique de le roman dans son magazine ou whatever. C'est une grande aventure, blablabla. Mais pourquoi Spiller a fait le post-fact qui a coupé tout ça? C'est un bon roman. C'est un bon roman. Hitler a écrit un bon roman, mais Spiller a fait un merde.
Il l'a gâché.
Mais pour la plupart, et son 8 ans de problèmes politiques en Allemagne avec l'index, avec le censorship. Après 8 ans, on fait le process 8 ans, tout ça. Et c'est bien, mais toutes les personnes qui ont dit contre le roman, ne dit pas c'est un roman fasciste. Le niveau intellectuel comprend ça, mais pour les petites personnes, c'est pas comme ça. Ça c'est un moment totalement politique. Et ça marche.
Karine Berouka, du coup, dans cette idée d'un texte qui porte en lui certaines idées politiques précises, j'avais envie de lire un passage du Club des Punks contre l'apocalypse zombie, parce qu'il y a un moment où la communauté de survivants réussit à s'organiser et il y a une sorte de programme. Et souvent en science-fiction, quand il y a une nouvelle société qui se crée, qui se construit, voilà, ils font les choses et puis ils ne réfléchissent pas forcément en termes de programme. En gros, on se retrouve sur une île déserte, sur une planète déserte, et puis on va reconstruire quelque chose de plus juste. Comme c'est Kropotkin, forcément, lui, il affiche clairement la couleur, c'est ce qu'il essaye de construire, c'est engagé, c'est politiquement engagé. Je peux lire le passage, tu vois,
ou... Ouais, alors juste pour dire que ça fait partie, c'est très cliché en fait, ils se retrouvent, ces punks se retrouvent avec des survivants qui récupèrent, qui viennent dans Paris, et donc ils décident de monter une sorte de la société parfaite, donc leur font un petit laïus, ça n'a rien de très profond politiquement, c'est les gros clichés de l'anarchisme et du socialisme du temps quand c'était à gauche.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ces clichés, on les retrouve dans d'autres romans, sauf que dans d'autres romans, ils sont supposés être la société idéale et on ne se pose pas la question de savoir si ça n'a pas déjà été des idéaux depuis très longtemps.
Oui, mais là c'est absolument pas de la science-fiction non plus. Hein. C'est ce qu'on pourrait. Par exemple, si je me mettais à vouloir former une communauté, et d'avoir, ça tient plus du bon sens, et puis bon, enfin, un peu d'éducation politique, mais c'est pas non plus ni de la perspective. Prospective, c'est tout, pour remettre en situation.
Alors, Eva, une des héroïnes, donc, a repris ses réunions de sensibilisation où elle explique, sans juger ni imposer quoi que ce soit, même si ça la démange parfois, les bonnes valeurs qui ont fait les grands jours du collectif du 25. Donc, le collectif du 25, c'est le lieu où se retrouve notre club des punks, leur mini-communauté à eux, qu'ils ont été obligés de quitter à cause de cette apocalypse zombie. La violence n'est pas une solution. Plus d'armée, plus de police. Pas de soucis, il n'y a plus de un flingue dans le château et la guerre, ils préfèrent éviter. Vu ce que ça a donné quand l'armée errante a fait son passage rouleau compresseur. Acte aux classes dominantes et à l'exploitation de l'homme par l'homme. Bah, vu le nombre qu'ils sont, s'ils commencent à se diviser en classes, ça va vite partir en couille. Mort aux banquiers, aux grands patrons, à l'économie de marché, au harcèlement managérial. Pardon, à la déshumanisation et à l'aliénation de l'homme par le travail. On passe très bien. Le ras-le-bol était déjà presque général avant la fin du monde. Personne n'est tendé par un remake. Halte à l'exploitation de la femme et de l'image de la femme. Plus trop d'actualité, les dernières pratiques machistes ayant disparu avec les occupants précédents. Faudra quand même veiller à ce que ça ne ressurgisse pas à un moment ou à un autre. Non à la mondialisation, l'hyper-technologisation du monde, le pillage de la terre, l'abus et le gaspillage. Bon, là, elle est hors sujet. Tout a été balayé en quelques nuits par la nouvelle mode zombie. Bouffer des animaux, c'est mal. Pas trop de problèmes à se faire entendre sur ce point-là. Il n'y a plus aucun animal à bouffer dans le coin, à part les rats, mais c'est dégueulasse. Les biches, les lapins et les fouines dans le bois, mais c'est mignon. Et personne n'a envie d'aller à la chasse, de peur de finir gibier d'une bande de zombies. Et les oiseaux, ils font de la musique, on va pas les désinguer. Non à la religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Là, plus de réticence. L'opium, il y a des moments où c'est sympa pour oublier les scènes d'horreur qu'ils ont tous dans la tête. Les proches qui se sont fait bouffer devant eux, les mois passés à jouer à cache-cache avec la mort. On peut lire tout ce qu'on veut. Même les méthodes de gestion managériale et les traités de chasse sont quand même bien plus utiles pour alimenter les cheminées. ça passe plutôt bien une belle flambée, c'est toujours apprécié. On peut écouter ce que l'on veut, même si le punk, c'est ce qu'il y a de meilleur. Là, le message n'est pas très bien compris. Elle n'insiste pas. De toute façon, le groupe électrogène qui a survécu au massacre a des utilités plus importantes que la sonorisation du château. Donc, je voulais lire ce passage parce qu'il me semble déjà très bien répété.
Juste pour dire, c'est qu'ils sont réfugiés dans l'endroit qui est probablement le meilleur endroit le jour où on sera envahi par les zombies, ce qui va sûrement arriver un jour ou l'autre. Le château de Vincennes, voilà, c'est très bien. Ça n'a pas été prévu pour ça à la base, mais c'est quand même pas mal pour se protéger de... C'est pour ça qu'il parle de château.
Voilà, donc c'était, il me semble, l'idée de ridiculiser un petit peu aussi des idéaux qui ne tiennent pas forcément la route quand on se retrouve face à toute une armée de zombies. Et en même temps, des énoncés, quand même.
Oui, mais c'est des idéologies qui peuvent fonctionner sur des petites communautés. Il y a eu beaucoup d'exemples dans l'histoire. Après, c'est un peu compliqué de faire fonctionner ça à l'échelle d'une nation ou d'un pays, quoi. Malheureusement, parce qu'il y a des intérêts qui apparaissent et puis vivre ensemble, c'est pas toujours facile. Les gens ne sont pas toujours prêts à faire des sacrifices qui permettraient justement de vivre dans une société qui est voulue parfaite, enfin qui est considérée parfaite par les acteurs du livre, mais qui serait quelque chose de plus égal, plus égalitaire, plus libertaire, où il n'y aurait pas de chef. Voilà. Donc là, on est vraiment dans la gauche, dans l'extrême gauche.
Oui. Ce qui est intéressant, si je peux intervenir, c'est qu'en 1908, il y a un anarchiste qui s'appelait Jean Grave, anarchiste français, qui a écrit justement un roman. Alors, c'est pas vraiment un roman d'anticipation, c'est un petit peu de la spéculation. Ça se passe sur une île et en fait, ça s'appelle Terre libre, ce roman. Et il tente d'écrire et d'expliquer, de réaliser en fait une sorte de société, comment fonctionnerait une société anarchiste. Donc on retrouve exactement les mêmes traits. Et une des plus grandes difficultés de cette société-là, dont ils arrivent à organiser un peu de travail quand même, parce qu'il faut bien travailler pour construire des maisons, pour labourer des champs, etc., cultiver, manger quand même. Sauf qu'il y en a qui ne veulent pas travailler. Et le grand problème de Jean Grave, c'était qu'est-ce qu'on fait dans une société comme ça, puisque c'est quand même une société libertaire, donc qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne veulent pas travailler? Et ça a été la pierre d'achoppement, finalement, de cette société anarchiste qui ne pouvait pas fonctionner, finalement, parce que tout le monde ne rentrait pas dans ce projet politique. Donc le livre était beaucoup plus... le récit était beaucoup plus sérieux, je pense, que la vision de Karine. Mais comme ça, dans la littérature, il y a beaucoup de tentatives pour, effectivement, essayer de trouver une société qui fonctionnerait avec des idées politiques alternatives. Seulement, parfois, ça ne fonctionne pas forcément, vous voyez. Et puis, juste un mot sur ce qu'a dit Norman à propos de Rêve de fer. Il y a quasiment, dans la littérature de science-fiction, plus précisément dans l'Uchronie, c'est la thématique de que se serait-il passé si Hitler avait gagné la guerre, c'est-à-dire revenir, voyez, sur encore cette erreur politique terrible qu'a été le nazisme. Vous avez d'autres, je pourrais citer, il y a eu beaucoup d'autres romans, il y a eu par exemple Fatherland, sur le même sujet, qui s'inscrit exactement à la même démarche que Norman. Vous avez même un écrivain de littérature mainstream français qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt, que vous connaissez certainement, qui a écrit La part de l'autre et qui est un roman très très... Alors, il fait, de l'uchronie sans le savoir, parce que je l'ai rencontré, on en a discuté. Et donc, c'est un roman où vous avez une partie du roman, c'est Hitler, qui a été accepté à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, et donc qui va devenir un artiste, et qui ne deviendra pas le dictateur que l'on connaît. Et toute l'autre partie, c'est Hitler qui a été refusé à l'Académie des Beaux-Arts, et donc Schmitt continue et poursuit sa biographie d'Hitler en se servant des travaux de l'historien anglais Kershaw. Voilà, donc c'est vraiment, je crois que la science-fiction et l'uchronie sont véritablement, je crois, très intéressés par... on revient sur le passé, mais on tente aussi finalement de dépasser les erreurs du passé.
On trouve aussi, et là j'ai envie de lire un petit passage de Police du peuple de Norman Finrod, on trouve aussi dans vos écrits une critique de ce qui est tout à fait actuel. Donc là on sort du cadre de l'imaginaire et du coup on pourra se poser la question de pourquoi l'imaginaire. puisque par exemple dans le petit passage que je veux vous lire, c'est un texte qui pourrait qui peut être écrit aujourd'hui, qui explique ce qui s'est passé un petit peu aux États-Unis avec les subprimes. Donc je vous le lis, je vous le propose, c'est juste une analyse à un moment de ces jeux de pouvoir de Wall Street. Et ça m'intéresse bien de savoir si c'est aussi un des objectifs que vous avez actuellement, de tout simplement dépeindre ce qui se passe en ce moment. Je vous le propose. Ne vous attendez pas à ce que JB Lafitte vous explique comment s'est produite la grande déflation. Parce que les petits malins à pognon, ceux qui sont encore là, disent que le comment est un qui et le pourquoi, c'est faire du pognon. Quoi d'autre ? Et si les pigeons qui naissent pour se faire baiser dans ce grand pays découvrent un jour le qui et le pourquoi, il n'y aura pas assez de goudron, de plumes, de voies de chemin de fer et de cordes dans toute Dixie pour rendre la justice qui s'imposera. D'un autre côté, il y a des gens qui font remarquer que les lézards de Wall Street, ou peu importe comment vous voulez appeler ceux qui ont tout fait, se sont baisés eux-mêmes par-dessus le marché et en fin de compte, c'est ce qu'ils méritaient, rien de moins, même si les gogos, y compris votre serviteur, ne méritaient rien, eux. J'étais juste un impresario de bordel et un propriétaire de bar quand ça a merdé dans les grandes largeurs dans le marais. Et quand le dollar s'est dégonflé, je me suis retrouvée empalée par deux crédits que je ne pouvais même plus songer à rembourser étant donné les circonstances. Sauf qu'ils concernaient des biens que je devais garder pour tout simplement continuer à bosser. Ne m'arrêtez pas si vous avez déjà entendu la même triste histoire trop souvent. Vous l'avez probablement racontée trop souvent vous-même. Je vais en arriver à la partie pointue du pal dès que je vous aurai donné mon avis sur ce qui a bien pu se passer. Quand on doute, il faut chercher l'argent. Ce que j'ai fait, après tout, bien que de manière moins lucrative toute ma vie. Donc, qui s'est rempli les poches pendant la grande déflation? Ou qui a espéré le faire? Ou qui, encore, se les remplir? Qui pourrait encore se les remplir?
Well, I don't know. I'll try this one in English. I was reading in some newspaper about a policeman in Los Angeles who was going to be thrown out of his house because he couldn't pay the mortgage. And the police were going to throw him out. And I thought that was a very interesting story. And, but then it came to me, no, this is Louisiana story. This is New Orleans. Place which I really like, but is not exactly part of America.
Alors, je vais essayer celle-là, je vais essayer de vous donner l'explication en anglais. Donc, je lisais dernièrement, à l'époque plutôt, je lisais dans un journal l'histoire d'un article qui racontait l'histoire d'un policier qui allait perdre sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son hypothèque. Donc il allait être jeté de chez lui par la police. Il était lui-même policier. Et ça se passait en Nouvelle-Orléans. Et la Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui ne fait pas vraiment partie des États-Unis, selon moi.
Peut-être que je vais continuer pour un français. Dans les années 60, moi et... j'ai l'idée de faire le maître de je ne vais pas en mémoire maintenant pour le nom, Gene Roddenberry, pour faire en télévision de la police très bien. Et la grande idée de cette époque est pas de piton, pas de tout. Pas un arrest pour prostitution, drogue, rien de tout ça. C'est pas un victime, pas un arrest, period. Et ça commence à police department, une idée. Un mec qui était un mec noir, qui était un flic, il a donné par son sergent un document de explication de maison pour pas payer de la mortgage. Vous, la chose, ça c'est moi. elle commence comme ça. Dans la révolution, un certain niveau anarchiste par la police. La police de Louisiane sont vraiment en police très dure, c'est un problème avec le racisme et tout ça, blablabla, you know, et c'est pas populaire. Mais c'est une évolution de la police, de Pueblo, avec voodoo, avec des choses comme ça. Et là, j'écris quelques romans, comme Enfant de Fortune, comme. Enfant de Fortune, c'est dans un univers très avancé, beaucoup de choses comme ça, contrebas. Et après, quelques années après, je le moi-même, je réfléchis, et c'est pas le gouvernement de cette culture, c'est rien du tout. Tout marche sans le gouvernement. Et ça, c'est le commencement d'être un anarchiste, mais un anarchiste conservatif. Comme bleu comme un orange, c'est conscience. C'est le chute du communisme, c'est le chute du capitalisme. Qu'est-ce que c'est le prochain chose? Et c'est un avenir avec un anarchisme conservatif, un anarchisme unique. Ce n'est pas une utopie, mais c'est mieux. Et c'est une utopie mieux. Anarchisme syndicaliste, on fait une évolution de la conscience morale de les citoyens, même de la mafia, des choses comme ça. Et pour cette raison, je crois, ok, je suis un anarchiste syndicaliste, mais c'est une chose qui évolue sans conscience Enfant de Fortune et quelques autres choses. Et la Grande Guerre de Bleu et de Rose, c'est un mélange de capitalisme et socialisme. C'est capitaliste, mais avec un support socialiste. Le gouvernement c'est pas des impôts. Vous êtes comme un citoyen, vous avez le gouvernement, on paye vous dans c'est comme un business, vous avez comme le stock dans un business. Et donc, what am I trying to say? Je crois que politics fait un pas de la conscience de l'individu. Et la conscience de l'individu fait l'essence de le niveau politique. Et pour moi, la chose de science, le centre, le semi. De vraie science-fiction spéculative, c'est une littérature de le feedback, de la conscience et de politique. La politique dans la conscience. Et à mon avis, la littérature pour la plupart officielle de la présente, maintenant, n'est pour le plus part faire connexion comme ça. Et ça, pour moi, c'est l'essence plus importante de la nature de la littérature de science-fiction, fiction spéculative, c'est ça. C'est la spéculation dans la conscience qui en fait la politique et la politique qui en fait la conscience. Et c'est plus subtil et compliqué comme ça. Mais en essence, c'est pas possible, à mon avis, d'écrire un roman avec le personnage sans un niveau politique, un niveau politique conscience, un niveau pas conscience. Vous avez Trump aux États-Unis, Marie Le Pen ici, Berlusconi en Italie, en conscience, en feedback dans le deux niveaux comme ça. Et pour moi, ça c'est la raison que je prie pour la plupart cette espèce de fiction spéculative.
Natacha, par rapport à ça, est-ce que la position de Norman Swinrad, elle est extrêmement claire? Est-ce qu'on retrouve chez les auteurs que vous avez étudiés c'est une réflexion aussi aboutie sur ce qu'ils souhaitent faire ou plutôt une envie de montrer certaines choses, de montrer certaines possibilités mais peut-être avec moins de conscience politique de ce que le livre peut faire, de ce que leur propre livre peut faire.
Oui. Alors ça c'est une question qui est difficile et c'est une question qui va rejoindre, moi j'ai un regard un petit peu distancié, mais c'est quand même très complexe. C'est-à-dire, c'est l'histoire des représentations. C'est-à-dire, est-ce que est-ce que l'écrivain qui finalement emprunte des représentations à la réalité, qui a lui-même une culture finalement, va créer des images, alors quand je dis images, c'est au sens évidemment très large, des images sociales par exemple, des idées, qui peuvent influencer finalement une part de la réalité et puis aboutir à ce que Norman appelle l'éveil politique. Vous voyez ? Donc ça, c'est une question très, très sérieuse à laquelle on n'a pas forcément de réponse parce que on peut peut-être pas évaluer, alors ça s'appelle la réception en critique littéraire, mais on ne peut peut-être pas évaluer finalement quelle influence est-ce que les écrivains risquent d'avoir sur leurs lecteurs. Il y a une influence certaine. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont influencer finalement leurs lecteurs? Est-ce que véritablement ils vont les influencer pour aller jusqu'à un éveil politique? Ça, c'est une question très sérieuse, très grave, et à laquelle on peut difficilement répondre quand même.
On peut difficilement répondre, et pour autant, ça peut être une réflexion dans le projet d'écriture. Quand Karim, par exemple, tu parles de ce MEDEF, alors il reste quelques survivants du MEDEF qui réussissent à récupérer des pauvres gars qu'ils exploitent de fait. Ils réorganisent ça très bien, ils ont 20 pauvres gars à aliéner et ils le font très très bien et très très vite. Ils se retrouvent quelques militaires histoire de se protéger. Donc c'est un exemple, mais est-ce que toi, quand tu écris ça, tu dis j'aimerais bien faire naître une réflexion chez le lecteur?
Là, on est déjà dans la caricature, donc le lecteur il est quand même assez grand pour voir que je ne suis pas dans un programme politique, ni dans un programme de propagande, parce que alors, dès le moment où on va avoir des idées politiques, on va vraiment vouloir les faire passer, on va vite dans la propagande. Mais effectivement, avec toute cette sensibilisation à tout ce qui est communauté anarchiste et libertaire, ça peut intéresser des gens. Il y a des références, il y a des citations, il y a des noms. Donc après, au lecteur d'aller chercher plus loin s'il en a envie, ou juste de prendre ça comme un roman d'aventure. Mais je pense aussi que quand il y a beaucoup d'écrivains qui vont essayer de transmettre des idées qu'ils ont, qui ne sont pas des idées politiques au sens parti, qui sont des idées de... Des idées que tout le monde peut avoir et qui vont les transmettre dans leurs livres. Il n'y aura pas pour autant la marque du PS, du PC, du UMP, je ne sais plus comment il s'appelle, parce qu'il change tous les 15 jours. Mais qui sont des idées politiques, que ce soit même quelqu'un comme Barjavel, qui était quand même foncièrement à droite, quand on y ravage, il y a des choses qui vont sortir qui ne sont pas forcément des idées de droite.
Oui, bien sûr. Oui, et puis, Ravage, c'est un roman dans l'œuvre de Barjavel. Ouais. Et bon, c'est vrai que pour moi, c'est un roman, on a dit souvent que Ravage était un roman pétainiste, conservateur, etc. D'abord, c'est un roman, c'est une fiction qui naît dans un terreau, dans une époque, dans un contexte. C'était le début de la carrière de Barjavel. Et très honnêtement, je ne crois pas qu'il fasse de la propagande pétainiste à travers son roman. Ça, c'est...
Moi, je n'ai jamais lu comme ça. Hein.
Voilà, absolument. Non, mais c'est une,
on ne le présente pas comme ça quand on le fait lire au,
tout à fait,
à l'école.
Tout à fait, absolument. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même des écrivains. Alors, je pense à un grand écrivain qui était Émile Zola, qui, dans la dernière partie de sa vie, après l'affaire Dreyfus, a voulu écrire une sorte de quadrilogie, son utopie à lui. Donc il y avait Justice, Travail, je ne me souviens plus du troisième ou quatrième tome, parce que de toute façon ils n'ont jamais été écrits. Ça restait un projet littéraire où là il y avait une sorte de syncrétisme, finalement, de synthèse de ses idées socialistes, anarchistes, communistes.
Il a écrit un livre sur Paris en futur, me semble-t-il. On n'a pas plus le titre.
C'est pas... Paris au XXe siècle, c'est
pas ça.
C'est Verne, me semble.
Non, mais Zola. Ah, bon, c'est pas grave, j'ai peut-être une.
Je vais le chercher aussi.
On va regarder. Voilà. Mais là, il est clair que Zola ne faisait pas forcément de la propagande, hein, au sens littéral du terme, mais il a voulu vraiment. C'était pour lui, c'était une sorte de catéchisme politique. C'est-à-dire que c'était. Il faisait du prosélytisme politique à sa sauce, à sa façon, mais il voulait véritablement éduquer ses lecteurs. Donc il y a eu notamment dans ce début de XXe siècle, il y a eu véritablement toute une mouvance comme ça d'auteurs qui ont voulu éduquer les lecteurs sans forcément faire de la propagande. Alors après, ça c'est un petit peu, tout ça c'est un petit peu distancié et délayé, mais on a eu une grande vague critique chez les auteurs justement de l'entre-deux-guerres et jusque dans les années 50. Mais au début du siècle, on avait cette volonté d'éduquer politiquement les lecteurs. Donc là, vous voyez, on était, je dirais, au-delà d'une vague influence. On était vraiment dans un projet d'éducation, un projet didactique.
Et d'ailleurs, Zola, moi, ça me rappelle ce souvenir où il va utiliser un petit peu l'imaginaire pour représenter la mine, comme une bête, et où le recours à l'imaginaire va lui servir à être d'autant plus frappant dans son projet littéraire. Donc peut-être rejoindre aussi le fait que l'imaginaire est un terreau particulièrement intéressant pour faire réfléchir sans pour autant tomber dans de la propagande et être directif ou faire des programmes peut-être. Mais en même temps,
l'imaginaire, c'est un outil, hein. Après, on peut effectivement faire ce qu'on veut. C'est vrai que les romans propagande, ça existe. Enfin, c'est pas un truc qui plaît tellement au lecteur. Hein.
Non.
Well, I have to do this one in English because it doesn't make any sense in French. I don't know how many people here remember the Charlie Manson murders and Garante, Polanski, and all that by Charlie Manson, who declared that he had been influenced to a great extent by Robert Heinlein's novel, Stranger in a Strange Land, in which the hero discorporated various people, which means killed them. And then Manson arrested, and I met Heinlein at some convention somewhere. Well, actually, he was in the street in the Haight-Ashbury, but that's another story.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de... Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Charles Manson. Eh bien, il a déclaré ultérieurement qu'il avait été inspiré par Robert Heinlein, Stranger in a Strange Land, où le personnage principal démembre ses victimes, il les assassine. Et donc, moi, j'ai rencontré Heinlein plus tard, je crois que c'était à Haight-Ashbury.
So I asked Heinlein, how did he feel about Charlie Manson using his book, to follow his book, and justify discorporating people he didn't like, another, you know, just killing them. And Heinlein, do that one because it's a punch.
But I need a microphone. We can show, there's another microphone.
I think this one.
Et donc j'ai demandé à Heinlein ce qu'il avait pensé du fait que Manson avait dit qu'il s'était inspiré de son roman.
And Heinlein said to me, The manufacturer takes no responsibility for misuse of the product.
Et Heinlein m'a répondu que le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour le mauvais usage fait avec son produit.
Which stood me in good sense because another period I had written a novel called Agent of Chaos.
Eh bien, en fait, c'était utile pour lui parce qu'à une autre époque, j'ai écrit un livre qui était Agent of Chaos.
In which there is a political suicide.
Où il y a un suicide politique.
So, someone kills himself for political reasons.
Et quelqu'un qui se tue, en fait, pour toutes sortes de raisons.
And the people who did the High Times magazine, the drug marijuana magazine, had planes that were flying a lot of marijuana up from Colombia.
Et les gens qui étaient responsables à l'époque d'un magazine sur la marijuana, ils avaient des avions en fait qui transportaient la marijuana depuis la Colombie.
And the guy Tom Fassard, who founded the magazine, was financed by the pot smugglers, killed himself. And that book was like a Bible of these people.
Et le fondateur du journal s'est suicidé et en fait c'est devenu la Bible de ces gens-là. Ce livre est devenu la Bible de ces gens-là.
And Tom Fassard committed suicide for political reasons.
Et donc Tom Fassard avait en fait s'était suicidé pour des raisons politiques.
And that was kind of disturbing to me as you might imagine.
Bien tout ça, c'était perturbant pour moi, vous pouvez l'imaginer. Donc le titre du roman, c'est Les pionniers du chaos.
So I really thought about what Heinlein had said to me. And I think that's the truth, that a writer is not really responsible for the political effect on a personal level of whatever it is you write. You may be trying to do one thing, and it does another.
Alors l'auteur ne peut vraiment pas être responsable des conséquences ou des répercussions individuelles de son roman, de son propos sur un lecteur.
Jack Barron, for example, is among other things return to. Left moral politics by Jack Barron, who has become a political television personality.
Dans le cas de Jack Barron, il devient une personnalité télévisuelle apolitique.
And I meant that in kind of a socialist positive way.
Et pour moi, ça c'était en fait une approche socialiste positive à la situation.
And any number of television personalities and political personalities that went in the other direction use that format.
Et les personnalités à la télévision et les politiques en fait utilisent complètement cette approche.
Unfortunately, they're all fascists.
Mais ce sont tous des fachos.
So, you never know what's going to happen.
Alors, on ne sait jamais ce qui va se passer. Hein.
Je crois que, par contre, là, on savait bien ce qui allait se passer, c'est qu'en une heure, on ne risquait pas de faire le tour de la question, c'est évident. On a fait qu'effleurer les choses. C'est frustrant, on a beaucoup d'autres choses à discuter et... J'espère au moins que ça vous aura donné envie de lire ou de relire les œuvres de Norman Finrad, de voir que le temps passant, ça reste d'une actualité frappante, que le club des punks contre l'apocalypse zombie va tomber immédiatement dans votre poche parce que c'est extrêmement drôle. Très juste et voilà, il y a vraiment des petits morceaux merveilleux et que la clarté de ce que nous a dit Natacha Pastor sur la science-fiction va vous amener à lire aussi des textes universitaires, des ouvrages universitaires qui sont loin d'être des choses fermées et qui peuvent être abordables même quand on n'est pas spécialiste, hein, on l'a vu en l'écoutant, là, en tout cas on l'a entendu aujourd'hui, on peut, quand on est passionné de l'imaginaire, aller aussi en chercher un petit peu l'histoire et l'analyse, même sans être spécialiste.
Merci.
Merci à tous.